France Inter. Chers auditeurs, chères auditrices de l'humour d'Inter l'hebdo, je vous souhaite une très bonne année 2025, remplie de rires et rêvons ensemble d'un peu moins de remaniement ministériel que l'année dernière. De retour de vacances, les humoristes France Inter étaient en super forme. Et dans cette émission, vous allez entendre Harold Barbé qui, visiblement, n'ira pas au ski cette année.
C'est le royaume des prétentieux, le ski. Quand je vois un gars faire un dérapage, j'attends qu'une seule chose, c'est d'entendre le crack de la fracture de sa malléole externe. Je les déteste, putain.
Emma Beaujean est disponible pour répondre à vos questions sur son mail pro.
C'est stagiaire au singulier, point 2, hein, pas le chiffre, point Nagui, @radiofrance.fr.
Nous ferons un petit détour par 2014 pour écouter une des figures en matière d'humour sur France Inter, Nicole Ferroni.
Alors tout le monde hurle « Monsieur le ministre, il y a le feu !» Et puis nous on voit les ministres qui succèdent, qui font « Ah mais c'est vrai, tiens dis donc, ça noircit la façade, oh je vais aller racheter du crépi !»
Et puis nous ferons plus ample connaissance avec Karim Duval, que vous écoutez depuis 2021 dans l'émission de Mathieu Noël. Il sera mon invité dans quelques minutes et j'en profiterai pour parler avec lui d'intelligence artificielle. On est en 2025, donc pour moi clairement, on est dans le futur. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez l'humour d'Inter, l'hebdo. Bienvenue chez vous.
L'humour d'Inter, l'hebdo.
Ceci est une émission de radio.
2025 est là, cela fait donc 10 ans que j'ai compris que faire des blagues, ce n'était pas anodin. Pourtant, je faisais ce métier depuis déjà 6 ans. Ce mardi, Charline a rendu hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo.
Bah, on a du mal à réaliser qu'il y a déjà 10 ans, hein, parce que 10 ans plus tard, Manuel Valls est toujours au gouvernement. Donc, depuis 2015, il y a deux métiers qui sont tombés dans la précarité, dessinateur de presse et Premier ministre. Luz n'a jamais été aussi proche de François Bayrou. Je suis sûre que ça lui fait plaisir. Je pense que si on a encore l'impression que 2015 c'était hier, c'est parce qu'à l'époque, on a tous pris 10 ans dans la gueule en une semaine. Alors essayons d'en faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est quand même le jour où on doit faire des blagues sur Mahomet. Alors j'ai essayé de le dessiner et j'ai amené mon dessin. Je vous le montre ?
Bah oui, c'est aujourd'hui, hein, voilà.
Voilà, alors, oui, voyez, moi ce qui me sauve, c'est que je suis pas douée en dessin.
Ah bah oui, ce ouais,
vous
ça dire,
sauve
là.
Ça, ouais, voilà. Gardez mon prophète, j'ai raté le turban, on dirait qu'il a des oreilles de Mickey. Voilà, en plus on est à la radio, donc ça va, on le voit pas. Pour les auditeurs, je peux le décrire peut-être.
Oui, allez-y.
Je peux, décrire on peut, ça je pense. Il a deux yeux, un nez et une bouche. Voilà. Alors, non mais soyez pas hypocrites, mais... On a tous une image en tête de Mahomet, quand même. Bon, après, vous voyez, il faut être doué pour qu'il ressemble à quelque chose. Donc, franchement, on est à l'abri. Regardez, je dessine pas de ouf. Donc, en fait, j'ai fait un bonhomme. Mais voilà, c'est-à-dire que mon Mahomet, il ressemble à un smiley, en fait. Bah, c'est une idée, ça. Si on crée un smiley Mahomet, on fait un emoji prophète. Alors bah, là, les islamistes, ils vont être bien emmerdés, je vous dire. Faut voir si la Silicon Valley nous suit. Pas sûr, parce que maintenant, les blagues, ça fout la trouille au patron. Comme si c'était les caricaturistes qui étaient devenus les terroristes. Avant, les patrons avaient peur des ouvriers, des syndicats, du communisme. Maintenant, ils ont peur d'un dessin. Et ça, alors le grand soir à coups de crayon en papier, ça, j'avais pas vu venir. D'ailleurs, depuis 10 ans, si on veut faire une blague sur la religion, c'est plus la plume qu'il faut prendre, c'est la garde du corps. Depuis 10 ans, on n'ose plus dire « j'ai une blague qui tue », sinon c'est pris au premier degré. On se demande encore si on peut rire de tout, alors que depuis 10 ans, on a bien compris que non. Hein, la liste des gens avec qui on peut pas rire de tout s'allonge au fur et à mesure que la liberté d'expression se rétrécit. Et puis, il y a ceux qui se revendiquent du véritable esprit Charlie. Alors eux, ils sont marrants, je les aime bien, parce qu'ils me font penser à celui qui dit « la République, c'est moi !» Comme quoi, ils ont peut-être un petit point en commun. Alors, j'y pense parce qu'au lendemain des attentats, on s'était tous promis de rester unis. Et puis bon, bah voilà, je sais pas trop où ça a dérapé, mais quelqu'un a dû faire une vanne sur les chauves. C'est pas bien passé, je sais pas. Alors en tout cas, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là. Moi, j'étais ici à la radio. François Hollande était à l'Élysée. Gabriel Attal révisait son brevet des collèges. Ce jour-là, j'étais en studio avec vous, Nicolas.
Oui, c'est vrai.
Au 18-20. Ouais, parce que France Inter m'avait encouragé le soir même à faire de l'humour à l'antenne avec mes camarades. Le sketch, c'était une interview de Mahomet avec Nicole Ferroni et Guillaume Meurice. La chute était très mignonne. Le prophète était dans la rédaction de Charlie Hebdo en train d'essayer de retrouver le dessin de Cabu parce qu'il se trouvait vachement beau gosse dessus. Et je me souviens, c'est même Alex Vizorek qui avait trouvé cette vanne. Alors, est-ce que je pourrais refaire ce sketch aujourd'hui ? Eh ben non. Mais pas seulement à cause du propos. Si je ne peux pas le refaire, c'est parce que mes camarades ne sont plus ici avec moi. Donc, mon petit constat perso, quand même, c'est qu'en 10 ans, en matière de blague, on est passé de « je suis Charlie » à « je suis à la PJ hein ». C'est pas ouf comme bilan. Hein, mais ça, c'est rien à côté des dessinateurs de presse, auxquels je rends hommage ce matin. Parce que ce qui a vraiment changé en 10 ans, d'après moi, c'est pas la possibilité de faire un dessin, c'est la possibilité d'être soutenu après l'avoir fait.
On peut compter sur Charline Vanhoenacker du lundi au jeudi à 9h45 dans la matinale, et puis ce soir à 19h pour Bistroscopie avec François Damiens. Et puis j'en profite pour dire qu'on n'oublie pas les victimes de l'attentat survenu à l'Hypercacher et dans les locaux de Charlie Hebdo. Il vient d'entrer dans le studio, sourire toujours bienveillant, vague de cheveux parfaitement maîtrisée et téléphone qui vibre toutes les 5 secondes car il a des notifs LinkedIn. C'est l'humoriste Karim Duval. Mais c'est qui Karim Duval ? 8 septembre 1981, Aix-en-Provence, naissance de Karim Duval. Un bébé franco-sino-marocain, autant vous dire, un melting pot. Ce sera d'ailleurs le nom de son premier spectacle. Il grandit au Maroc et de son enfance, il garde une certaine nostalgie, citant volontiers notre camarade Warine Nishen qui officie chez Nagui cette année.
Il a dit oui, le temps c'est de l'argent, et ça c'est une grosse connerie, le temps c'est de l'argent. Parce que moi je viens d'Afrique, le temps c'est pas ce qui manque. Et je peux te dire que là-bas, le temps, ben c'est du temps. Hein, c'est pas de l'argent du tout.
Il garde aussi de ses années au Maroc le fait de tout convertir en dirham quand il fait ses courses. Après des études brillantes, il fait Centrale, qui n'est pas qu'un endroit où on peut trouver des bagnoles. Et il devient ingénieur informatique. Il va travailler dans la plus grande technopole d'Europe, Sofia Antipolis. Alors pour des gens comme moi, ça ne veut rien dire. Mais si j'en crois Karim, c'est là qu'il apprend à parler la novlangue, ou comme il l'appelle, la langue du bullshit.
Mais Boudier, faut que tu te manges, c'est bientôt la deadline. Forward le reporting, en deux ou trois wordings. Au manager, à nos bons actionnaires, à chaque intérimaire, et même au N-2, au back-office, au copil, au codir, au comex et au DAF, bref à l'ensemble du staff.
Et je suis sûre qu'il a compris toutes ces paroles de chansons des goguettes. Mais faut savoir que l'humour, ça le titille. Alors à Antibes, en cours de théâtre, il teste ses premiers sketchs et... Ouais, ça fait pas toujours mouche, ça fait pas toujours mouche, mais il le revendique, hein. Même les bides ont été motivants. Assez rapidement, il se lance dans un spectacle entier, mais il finit par abandonner sa double vie pour se consacrer à l'humour. Après un spectacle sur ses origines, il décide de parler de sa génération dans le spectacle Y. Le confinement arrive et Karim Duval s'autorise à poster des vidéos sur LinkedIn, le réseau social du travail, et ça change sa vie. Ses salles sont remplies par des gens qui parlent, cette fameuse langue du bullshit. Alors depuis 2024, il joue son troisième spectacle, Entropie, partout en français, en tournée. Et on le retrouve sur France Inter dans l'émission de Mathieu Noël, Zoom Zoom Zen. Il est mon invité cet après-midi. Comment ça va, Karim Duval ?
Bonjour Marine.
Bonjour, déjà. Merci d'être là.
Ben merci de m'inviter. Je suis content d'être invité sur France Inter.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire de venir en étant non rémunéré,
ouais,
finalement.
Ouais, ça change pas grand-chose. Mais non, merci. Ben, ça va bien. Je suis reposé. Après les fêtes, je suis cool.
Tu te rappelles de ta première chronique à France Inter,
Oui, bien sûr. C'était ma première chronique d'essai, c'était le 14 août.
Ah oui, okay, c'est extrêmement précis.
Fermez les yeux, 14 août. Ouais, mais donc ça veut dire qu'en fait, il y avait pas grand monde qui écoutait. 2021, c'était une chronique d'essai, je pense que c'était la date idéale pour me faire un test. On aurait pu le faire, pas en public d'ailleurs. Et c'était avec Laetitia Gaillet.
Bien sûr,
dans une
qu'on
matinale.
Embrasse, qui ouais, est formidable.
Qu'on embrasse et qui a été super bienveillante. On était... seul à seul dans, okay. Dans le studio, et j'avais l'impression d'être entouré d'un public, ce qui est dur, parce que tu sais très bien que jouer devant une personne,
c'est hyper compliqué,
c'est pas facile, c'est un peu le cauchemar de tout humoriste. Et non, j'avais fait une chronique sur les workations, les tracances, les gens qui arrivent pas à vraiment décrocher des vacances. Et j'étais arrivé, toi qui connais la Bretagne, de Bretagne, du Finistère Nord, j'avais fait 4h30 de train pour venir donner ma chronique et repartir dans l'espoir d'être pris à France Inter. Et après, boum, ça a été immédiat. 2 ans plus tard, je repassais une chronique test chez Mathieu Noël.
Et ça a fonctionné.
Ça a été probant. Ça a mis son temps.
Dans quelques instants, on va écouter une de tes chroniques récentes, enfin en tout cas de la fin de l'année dernière. Mais avant ça, Karim, on va explorer tes contradictions. Je vais te donner des phrases à compléter, sauf qu'à chaque fois, il y a un mais.
Il y a des mets dans ma vie, moi.
Oui, bah, je pense oui. Tout le monde est pétri de contradictions, spécialement toi. Tu as d'abord été ingénieur informatique, mais...
Ça, c'était que sur le papier. Parce que ouais, j'ai un papier, une feuille A4, où il est écrit que je suis ingénieur. Mais quand j'ai commencé en tant qu'ingénieur informatique, c'était écrit sur ma fiche de poste. Mais je ne savais pas, vraiment. Je n'avais jamais écrit de ligne de code.
C'est vrai?
Du moins, une ligne de code qui marche. Mais j'étais software engineer. Quoi.
Ça, c'est la classe. Ouais. Tu es parfois nostalgique du Maroc où tu as grandi, au point d'avoir même créé un spectacle spécialement pour les Marocains.
Nostalgie.
Mais
j'aimerais bien pouvoir m'offrir un jour le luxe matériel ou juste le lâcher prise de pouvoir passer des années au Maroc pour pas parler du Maroc avec nostalgie, mais le Maroc d'aujourd'hui. Là, je suis dans une espèce de... Je suis un peu prisonnier de cette nostalgie du passé, etc. Et j'aimerais bien le vivre dans le présent.
Oui, en plus, c'est le Maroc de l'enfance, c'est pas le Maroc
C'est le Maroc de l'enfance, ouais, qui a tellement changé. Donc, justement, je parle de cette distance entre le Maroc de l'enfance et le Maroc d'aujourd'hui, que je connais pas vraiment, parce que maintenant, j'habite en France, et je veux pas me permettre d'essayer de faire genre je connais. Ouais. Ça a changé, ça va hyper vite. Avec Internet, ça va, j'ai envie de dire, encore plus vite qu'en Europe. Et donc j'ai toujours cette espèce de distance et cette grande proximité, cette grande affection pour le Maroc.
Physiquement, tu ressembles un peu à Elon Musk, mais...
mais si je me rasais, je lui ressemblerais beaucoup.
Moi, je le vois pas. On m'a dit beaucoup que tu t'étais vraiment sosie.
T'as mis un peu. Bah ouais, on me dit souvent, même qu'une fois au Maroc...
Vraiment,
à la douane, il y a un douanier qui regarde comme ça et puis regarde le passeport et ça me fait flipper. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. Il me dit, c'est quoi ton rapport avec Elon Musk?
C'est vrai?
Je te jure, ouais, c'est quoi ton lien familial? Il m'a dit en arabe. Non, ça arrive souvent.
Je m'appelle Karim, j'ai un vrai prénom, je m'appelle pas XW4.
C'est vrai. Enfants, et moi, je veux vivre sur Terre, moi. J'ai pas envie.
Tu fais partie de la génération Y, mais.
Mais je suis né en 81, donc ça dépend vraiment de la définition qu'on donne à la génération Y.
Limite la génération
limite
d'avant.
X, ouais, je suis putain xénial, comme on dit. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir quand même du recul par rapport à cette génération et pas être en plein dedans et donc en parler un peu comme un vieux, mais pas trop, quoi.
Le rappeur SCH aussi, il fait partie de la génération Y, né avant les années 2000. Il raconte comment c'était de naître au siècle dernier. On écoute SCH 2000 sur France Inter.
Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mois d'or, c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. Amis pris pour que nous le restions, pas d'ingestion, des émotions, c'est pas la question. Mais tu réponds aux questions, par des questions. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On taffe au 3, 8, on dit loup, on pack. On crie jamais à l'aide, on fait avec et puis t'en aide, on s'en tape. Je vois mes cicatrices comme des forces, pas comme un handicap. Et je bois ce whisky sans glace. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mobile. J'ai connu le franc, j'ai connu le faux. Le taron dans la cadette 16. Dans un futal en velours. À siphonner des poids lourds. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Jitaf. Le crissement du VR6. J'tire le poste avec un prise classe. La crâne bien défile sous mes yeux dans le tramway. Maman vend ses bijoux chez la tante. Quelques poubelles vont cramer. Mon reflet dans une flaque de pisse. J'fais des sourires au camé. J'rêve de quartier, bois, j'rêve de palais. Comme les damnés. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mois. Les années 2000. J'veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. J'pense à décembre, j'pense à avril. J'ai la libé avant le mois.
C'était SCH, le Karim Duval du rap, comme on l'appelle, car sa chanson célèbre la génération Y, 2000 sur France Inter.
Marine Baousson sur France Inter.
Karim Duval, justement, c'est mon invité aujourd'hui. Dans ta dernière chronique, Karim, dans l'émission Zoom Zoom Zen, eh bien, tu te demandais si t'étais au top de toi-même.
Quoi de mieux pour conclure une émission où on a parlé d'en finir avec le culte de la performance pour plus de robustesse que une performance de 3 minutes. Hein. Oui, 3 minutes, on est bien d'accord Karim, 3 minutes. Hein. Tu dépasses pas 3 minutes. Hein. Et drôle, concis, efficace, hein, 3 minutes de lol. Ça, c'est ce que vient de dire Cyril Lacarrière avant de me rajouter. Et surtout, fais-toi plaisir mon lapin. Sachant qu'après, il va me faire un débrief sur ma performance avec des indicateurs, des KPI de la rigolade, hein, le NRPS, un nombre de rires par seconde, le NFMNTLC, nombre de fois où Mathieu Noël s'est tapé sur la cuisse. le PLR, le pig laugh rate, ou taux de rire de cochon. Vous savez, le... Hein, ça, quand t'es humoriste, c'est le top. Quand un humoriste arrive à extraire ce bruit d'un corps humain, c'est comme dépasser le mur du son. Hein, les pilotes, c'est Mac 1, hein, nous, c'est... Hein, Mac 2, c'est... Et Mac 3, je sais pas, parce que bah, je suis pas assez performant. Et oui, je me laisse encore aller à cette sous-optimalité à laquelle vous incitez dangereusement, Olivier Hamant. Hein, j'aspire à devenir un homo optimus, hein, mais je me sens nul face à cet être supérieur homo optimus. Optimus. Apparu dans les steppes occidentales néolibérales, Homo Optimus Optimus est efficient dès le caca du matin. Son premier livrable de la journée. Et quel livrable, hein, il te sort le colombin parfait. Un reverse slicé de Roger Federer, le truc. Hein. Sans aspérité, sans mouchetage, sans ses feuilles de persil insubmersibles malgré trois tirages de chasse. Avant de dérouler son plan d'action, car c'est sa devise, je démoule, je déroule. Et c'est parti pour la journée. Qui n'est pas une journée, mais une journey.
Ah
parce
oui.
qu'en anglais, hein, ça fait mieux. Hein. Une journey, c'est un voyage qui mène d'un point A à un point B et focus sur son objectif. Rien ne l'arrête dans son voyage. Hein, les enfants, c'est géré. La femme qui gère les enfants, c'est géré. L'amour qui gère la femme qui gère les enfants, c'est géré par le livreur du bouquet de fleurs qu'il a fait livrer. Si bien qu'entre deux réunions efficaces, il s'accorde même une folie. Gros craquage, attention, la pause café. Ce concept inventé pour faire style, on prend le temps, alors que non, en fait, une pause café, ça se lance en disant petit café. Hein, forcément, hein. Un café, c'est un petit café. Hein, j'ai jamais entendu un collègue de travail dire « ça te dit un café allongé hein ?» Et on a créé l'illusion que le café donne de l'énergie, alors qu'en fait, bah, il n'y a pas une calorie là-dedans. Hein. Autant faire des pauses concombres. Hein. On serait là, petit concombre, allez, petit concombre, ça serait pareil. Il y a toujours un contexte aux phrases qu'on prononce, hein, je le précise. Merci.
Pas de problème, mais...
En fait, une grande partie de l'humanité est loin de ce délire de la performance. Une grande partie de l'humanité est robuste parce qu'elle se prend déjà les fluctuations dans la tronche. Hein. Et elle observe Homo Optimus Optimus et elle a envie de lui dire, hein, de nous dire, redescends d'un étage parce que si t'es aussi performant, c'est principalement parce que t'es né en zone tempérée. C'est tout. Hein. Tu t'es laissé glisser à la maternité de Levallois, là, comme ça, et encore, il a fallu t'aider avec des spatules. Hein. Et voilà, objectif atteint à 50%. Hein, comme vous le rappelez si bien, Olivier Hamant, la nature, en général, ne cherche pas la performance, elle est sous-optimale. Hein, pour sa photosynthèse, par exemple, une plante utilise 1% de l'énergie solaire qu'elle reçoit. Hein, c'est quoi ce rendement de gauchias hein? Oh, les ficus, là, on se réveille hein? Une plante n'a pas de business model. Hein, une plante est vouée à gaspiller, à créer de l'entropie. C'est le titre de mon spectacle que je joue à Nantes le 21 décembre prochain. Une plante est vouée à gaspiller et il s'avère que ça sert le bien commun. Une plante, c'est l'État français. C'est pas rentable, mais ça fait plaisir. Il n'y a que l'être humain pour chercher la performance, en fait. Hein. Donc, quelque part, pour se penser hors de la nature, hors de ce qui est. Là, je viens de perdre 3 points en NLPR. Et hier soir, j'étais au concert de Paul McCartney. Il y avait Cyril Lacarrière, bien sûr, qui a envoyé son slip sur la scène. En bon fan qu'il est, combien d'homo optimus optimus dans la Défense Arena ont chanté « Let it be, laisse cela être, accepte les choses telles qu'elles sont » et combien d'entre eux, ce matin, ont démoulé la meilleure version d'eux-mêmes avant de retourner à la Défense, y dérouler leur journey optimale.
C'était Karim Duval que vous retrouvez dans Zoom Zoom Zen. Et puis ce samedi, dans l'humour d'Interlebdo, l'éventail du meilleur de l'humour de la semaine. Karim, ton nouveau spectacle s'appelle Entropie. C'est quoi l'entropie ?
Écoute, je me pose encore la question. Je ne prétends pas faire une conférence de vulgarisation scientifique sur l'entropie. Moi-même étant un faux ingénieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout scientifique. Mais c'est l'entropie, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, j'ai toujours pareil. Je fuis la réponse. On va dire que c'est une mesure du désordre croissant d'un système, on va dire, de la vie.
Donc du coup, ce spectacle parle de ce désordre. Mais en même temps, tu apparais comme un homme très organisé, très ouais. droit, qui parle de sujets scientifiques. En fait, c'est ta finitude qui te fait peur plus que le désordre.
Ouais, en fait, ça parle. Qui dit entropie dit aussi, on l'oppose souvent à ce qu'on appelle à l'énergie utile, en fait. Et en gros, dans un moteur de voiture, t'as l'énergie qui fait avancer le moteur et puis t'as la chaleur qui fait que le moteur chauffe, les gaz d'échappement. Ça, c'est l'entropie. Donc, en fait, rien n'est parfait, en fait. Il y a toujours. Gaspille toujours de l'énergie. Et donc, cette dualité-là entre, ouais, on peut dire, l'artiste qui, on va dire, entre guillemets, gaspille. Pour citer Sébastien Marx, la cigale et puis la fourmi qui essaie d'être efficace, il y a toujours cette dualité-là, donc c'est comme ça que je l'exprime moi dans mon spectacle, Seb le fait d'une autre manière, et donc c'est toujours cette opposition, et finalement ça questionne aussi est-ce qu'il faut toujours être utile, efficace, ouais. Et finalement c'est plus une dénonciation de l'utilité, de l'efficacité que de cette entropie qui fait partie de l'ordre naturel des choses. Le désordre fait partie de l'ordre naturel des choses.
Tu te demandes d'ailleurs si à 43 ans on a encore des choses à inventer dans ce spectacle. Moi j'ai vu tes 3 spectacles et je trouve que tu fais que te renouveler. En préparant cette émission, tu m'as confié que ton premier spectacle, celui où tu parles de tes origines, c'était celui qui était le plus loin de toi.
Et oui.
Pourquoi?
Et oui. Bah parce que c'est un premier spectacle. Alors déjà un premier spectacle. Moi je savais pas que j'allais avoir un spectacle. Je savais pas que j'allais devenir humoriste. J'ai joué mes premières vannes et c'était un hobby quoi. Et puis petit à petit on se prend en jeu et puis on a un sketch, puis 2, puis 10, et puis quand on en a 10 et que ça dure une heure, on dit j'ai un spectacle pour pouvoir proposer des spectacles à une salle. En tout cas, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça que ça se faisait. Maintenant peut-être que les gens ont plus une idée en tête, et certains avaient déjà une idée en tête de ce qu'ils allaient raconter. Moi, non, je voulais faire rire. Donc c'était une accumulation de choses qui, selon moi, faisaient rire à l'époque. On m'a dit, ouais, mais ça manque d'enrobage, justement, ça manquait d'identité. Et puis quand j'ai dit à un producteur parisien, quand je faisais mes premiers pas sur les scènes ouvertes parisiennes, je m'appelle Karim Duval, et il m'a dit, mais t'as une tête de chinois, c'est ça qu'il faut que tu racontes. C'était l'époque du Jamel Comedy Club, c'est ça ta singularité. Alors forcément, je me dis, bah ouais, attends, un producteur parisien qui produit plein de grands artistes me dit ça, faut que j'aille vers ça, quoi. Et donc, je suis parti bille en tête avec cette histoire de Karim Duval, Melting Pot, etc. Bien sûr, il y a des choses à dire là-dessus, mais c'est vite devenu un ramassis de blagues où tu mélanges le couscous, les nems. Donc finalement, c'était assez loin de ce que j'étais, de mon parcours. Ouais, c'était une protection plus qu'autre chose, cette histoire d'origine, même si après, ça a permis de révéler quelques petites choses sur d'où je venais. Mais je pourrais presque réécrire ce spectacle sur mes origines, en dernier spectacle de ma carrière.
Ouais, peut-être parce que finalement, ce qu'on apprend en te découvrant au fur et à mesure de tes spectacles, et notamment dans le dernier, c'est que tu remplis ta salle par LinkedIn. Tu dis d'ailleurs que tu as dû faire un LinkedIn out,
oui.
C'est pas facile à dire, en assumant le fait d'être un ingénieur en reconversion. Aujourd'hui, tu revendiques le fait d'être porté par une niche de gens, qui sont donc ces gens de l'entreprise.
Qui est une grosse niche, hein. c'est quand même 20 millions d'utilisateurs actifs sur LinkedIn. Donc c'est pareil.
Comment tu fais pour rester toujours drôle et actuel sur ce monde, alors que tu l'as quand même quitté depuis plus de 10 ans l'entreprise, ça fait 10 ans que t'es intermittent, quoi.
Et ben justement, parce que je me rends compte, et c'est un peu l'évolution que prend mon spectacle actuel, Entropie, qui est plus universel, plus ouvert, il n'attire plus que des gens de LinkedIn, il attire aussi des gens des ados, et puis des gens qui viennent aussi, le tout venant. Et des gens qui me découvrent par d'autres biais que LinkedIn. Mais c'est en me rendant compte que finalement, les pastilles que j'ai mises sur LinkedIn qui parlent du monde du travail où j'utilise le langage bullshit, bah finalement, ce qui fait leur succès, c'est pas le langage bullshit, c'est les travers humains qui sont les mêmes, qui sont restés les mêmes que quand moi j'étais en entreprise et qui sont des travers qui vont bien au-delà du milieu de l'entreprise. Et donc, c'est toujours ce qui est pas drôle en creux qui fait rire.
Tu pourrais me citer un spectacle d'humour qui a changé ta vie ?
Waouh, c'est le genre de questions que j'adore, qui a changé ma vie. Les spectacles de George Carlin, par exemple. C'est un humoriste qui est mort maintenant, américain, qui dénonce pas mal voilà, le système politique, etc. Et puis qui parfois adopte une forme poétique, comme j'aime bien le faire moi en fin de spectacle. Mais j'aime bien cette forme-là et je trouve que, enfin, sans le copier, mais en tout cas, ça a imprégné en moi cette forme-là. Il y a tellement d'humoristes en fait. Tu vois, Verino, c'est toujours très fort, c'est toujours brillant ce qu'il fait. De temps en temps, c'est bien de se rappeler ce genre d'exigence.
Dans ton spectacle, Karim, tu te demandes si on a encore un avenir après 40 ans. Laura Domangel et Le Delaf, eux, ils ont réglé la question, ils n'ont plus qu'un seul rêve, la retraite.
Je vais t'ouvrir un monde, celui de la ringardise. Toi, t'as des rides, moi du bide, et tant pis pour la laine de mort.
J'aime bien l'andouillette Roquefort.
Je vais mettre sur tes yeux...
Mais quoi ?
De gros verres progressifs, de voir de près, c'est le kiff, le pays du rêve de vieux, ce rêve de vieux. C'est un nouveau monde sans vigueur, où personne ne nous dit que c'est interdit de se coucher à
20h. C'est bon d'être réac, de mettre des anoraks. On aime les cakes aux fruits, on pisse au lit. Et on s'en fout parce qu'on est vieux à deux.
Nous faisons ce rêve de vieux à deux.
Dans notre foyer fiscal, je touche la rente viagère. À moi le ciné et les transports, car maintenant j'ai la carte senior. Ce rêve de vieux,
tu peux griller la queue.
C'est avoir un cabas à roulettes,
oh, caisse prioritaire.
Faire des vacances à Nice, dire salut la miss, prendre des dégâts après.
Un rêve vieux,
pas dire que c'était mieux avant.
C'est c'est avoir le temps de parler
et s'abonner au Figaro, se faire un sudoku devant un fer conclu et trouver que 40 ans c'est pas vieux.
Ce rêve de vieux
qui manque de cheveux,
oh ma Sylvie,
oh mon Jean-Louis,
on le vivra pas, ni toi ni moi,
car on n'aura pas de retraite.
Superbe duo de Laura Domange et Oldelaf qu'on retrouve bien sûr dans la bande originale chaque semaine. Il y en a une autre qui a déjà chanté dans les émissions de Nagui, c'est Sia. Tout de suite, on écoute sa chanson Chandelier pour nous mettre dans l'ambiance de l'année de la chronique vintage qui arrive dans quelques minutes. Allez-y, fermez les yeux, on est en 2014. Mettez vos justes au corps beige et dansons tous ensemble sur Chandelier.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.
C'était Chandelier, Sia sur France Inter, chanson sortie en 2014. Et justement, à ce moment-là, sur France Inter, chaque mercredi matin, on pouvait entendre une autre femme inspirée. On va réécouter une de ses chroniques de l'époque afin de déterminer si...
L'humour, c'était mieux avant.
Accusé, levez-vous.
Chers collègues et invités multisexuels, cher public, énigme sexuelle, bonjour.
Et celle qui a joué un t-shirt I love les roubettes.
Maintenant, vous ne bougez plus. Vous mangez les pattes, debout, les pieds dans le plastique. Et vous ne mettez pas les mains sur les murs. Papa arrive.
Elisabeth Borne vient de prendre ses fonctions au ministère de l'Éducation après avoir déclaré que c'était pas sa spécialité. Je me suis donc dit que ça serait pas mal qu'une ancienne prof de SVT lui explique le métier d'enseignante. Et justement, en mai 2014, Nicole Ferroni faisait le point pour Benoît Hamon, qui venait d'être nommé ministre de l'Éducation lui aussi.
Vous savez, monsieur Hamon, je ne vais pas vous le cacher, vous étiez mon fantasme il y a quelques années. Moi, il y a quelques années, je rêvais qu'on fasse comme ça, à ma porte, comme ça, que ça fasse. Madame Ferroni, bonjour, je suis nouveau ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que ça vous dérange si je prends vos troisième mains en cours à votre place pendant une heure? Je rêvais de ça, d'un ministre, vous voyez, qui vienne comme ça voir ce que c'était vraiment qu'être enseignant. Parce que, comme l'a dit monsieur Cohen, oui, j'étais effectivement enseignant, donc je faisais partie de ces planqués là qui font 3 mois de vacances, 9 mois de grève. Et c'est vrai que j'étais quand même plutôt bien planqué puisque j'étais au fond du trou. Hein, on le dit souvent, ça faire son trou dans la boîte. Moi, je m'étais enterrée vivante. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans mon terrier, tout de suite, très vite, ça sentit très fort le roussi. Vous savez, une espèce d'odeur de soufre, là, de souffrance, parce qu'on m'avait affectée dès la première année en zone ambition réussite. Alors, zone ambition réussite, ça n'existe plus. C'était Lazare, donc c'est-à-dire c'est comme le gratin de la ZEP, c'est ZEP, mais c'est aussi ZS, ZV, hein, zone sensible, zone violente. Et comme après, ils n'ont pas quand même osé rajouter ZA, zone apocalyptique, ou ZV, zone qui brûle, maintenant ça s'appelle établissement éclair. Et clair comme la durée de vie d'un enseignant là-bas. Et donc, suite à cette première mutation, j'ai ensuite donc, eu droit à ma première affectation. J'avais demandé la Guadeloupe, on m'a donné l'Essonne. Ensuite, j'ai eu une suppression de poste. Et là, vraiment, c'est devenu irrespirable. Du coup, j'ai fait comme le renard dont on enfume le terrier. J'ai fui. Vous voyez, j'ai posé ma lettre de démission et je suis partie. Et puis, une fois que j'étais hors du brasier, j'ai regardé l'incendie. Je me suis dit, mais c'est un petit peu normal quand même si ça brûle. Il y a plein de court-circuits. Court-circuit, programme de physique actuel de 5e. Donc, c'est quand dans un circuit électrique, vous avez un contact comme ça entre deux points de potentiel finalement très différents par un conducteur de faible résistance. Et là, du coup, ça pète. Alors, le conducteur de faible résistance, c'est qui? C'est le prof, parce qu'il conduit les classes, qu'il a du mal à résister. Pourquoi il pète les plombs? Parce qu'on lui demande effectivement de faire le lien entre deux mondes très différents, entre l'image de branleur qui se traîne, la lutte qu'il a, entre les concepts qu'on construit pour l'école, la réalité de terrain, entre l'urgence de la situation et les réponses absurdes. Donc, je donnais par exemple, je donnais un exemple à M. Payon la dernière fois. J'ai dit, voilà, moi, dans ma classe, j'avais un tiers d'élèves qui ne parlaient pas français, à qui on me demandait d'enseigner les chromosomes sont le support du problème génétique. D'autres qui me demandaient pourquoi la fille ne tombe pas enceinte quand ils sont 5. Et pendant ce temps-là, la priorité du rectorat, c'était de savoir où c'est qu'on met les tableaux blancs interactifs pour l'éveil aux nouvelles technologies. Alors on peut se dire, oui, c'était il y a 5 ans. Donc moi, pour cette chronique, j'ai fait quand même l'effort de demander à mes collègues, mes anciens collègues, en ce moment, comment ça va. Alors Anthony me dit, bah oui, que son lycée est une fabrique d'élèves pitoyables de première S plutôt que de faire des bons bac pro. Peut-être parce que 35 élèves en seconde générale, ça coûte plus que 5 en ébénisterie, ou parce que c'est plus beau de dire oh ben Jessica est en terminale S plutôt que de dire qu'elle est en BEP, parce qu'en France c'est comme ça, on devient avocat mais on finit plombier. Au collège, Rémi me dit pas qu'un élève de 6e sur 2 ne sait pas écrire, mais il comprend pas du coup pourquoi on réforme le périscolaire en primaire plutôt que de réformer le scolaire. Alors ma copine Julie qui est instite me dit moi j'aimerais bien faire plus de lecture, mais tu comprends, faut déjà que j'apprenne à l'AVS à poser une addition. Alors l'expliquer aux élèves, bref, il y a le feu à tous les étages, alors tout le monde hurle monsieur le ministre, il y a le feu, et puis nous on voit les ministres qui succèdent. Qui fait « Ah mais c'est vrai, tiens dis donc, ça noircit la façade, oh je vais aller racheter du crépi ». Donc pour que vous vous posiez du coup les bonnes questions, à savoir où sont passés les tuyaux, les lances, la grande échelle, je vous ai fait du coup une copie des mails que m'ont envoyé et qu'ont eu la gentillesse de m'écrire tous mes anciens collègues, dans lequel ils vous expliquent un peu la vraie vie des enseignants. Et faute d'avoir traité les problèmes en amont, j'espère qu'on les fera les traiter par amont.
Très
et
bien.
Pour ceux qui sont encore dans le naufrage, bon courage.
C'était Nicole Ferroni en mai 2014 dans le 7-9 de Patrick Cohen. T'en as pensé quoi, Karine Duval ?
Je me suis dit que c'était cool d'être dans une boucle spatio-temporelle.
Ah, c'est fou, hein ?
En fait, j'ai l'impression d'écouter la chronique d'hier. C'est exactement le même monde sans Nicole Ferroni,
c'est vrai.
qu'on regrette sur les ondes. Mais ouais, sinon, rien n'a bougé. Et encore, elle disait déjà que rien n'avait bougé, quoi.
Souvent, dans cette partie de l'émission, on passe des artistes décédés. Mais là, Nicole est dans la fleur de l'âge. Et quand je lui ai dit que nous passerions une chronique d'elle aujourd'hui, elle a tenu à vous adresser un message.
Oui, bonjour, chers auditeurs de France Inter. Ici Nicole Ferroni. Et merci Marine de me passer brièvement la main. Chose qui n'est pas aisée pour moi, parce qu'il faut savoir qu'en ce début d'année, je me suis cassée non pas un, mais les deux poignets. Alors, je sais que vous allez vous dire, oh là là, mais ça va pas être pratique, Nicole. Oui, mais en même temps, quand j'écoute certains propos de nos nouveaux ministres comme Madame Borne, est-ce que les bras ne nous en tombaient pas déjà? Bras tombés, poignets cassés, vous avez compris? Excellent.
Vous écoutez l'humour d'Inter, l'hebdo, l'émission qui, telle ma mère, 4 jours après Noël, vous resserre le meilleur de ce qui s'est fait dans les jours qui viennent de s'écouler. Sauf que là, on vous file pas les restes de Vérine, Betterave, Boursin, mais les chroniques humour de la semaine. Et dans le meilleur de cette semaine, il y a Emma Beaujean qui a été assaillie de questions pendant les vacances.
C'est la rentrée, je suis très contente de vous retrouver. Et surtout parce que j'ai passé les vacances à répondre à des questions sur l'émission, sur ma chronique, notamment sur l'argent. Ma famille qui m'a demandé si j'étais bien payée. Enfin, tonton, je t'ai offert un dessin à Noël et j'ai 24 ans. Une révélation un petit peu gênante sur ma famille dysfonctionnelle. On m'a dit que j'en avais le droit à 2 par chronique et que ça rapprocherait les auditeurs après la période des fêtes. Du coup, ça m'a inspirée pour cette chronique et je me suis dit si on faisait une FAQ. Alors, on va répondre aux questions des auditeurs. Aujourd'hui, vous avez été nombreux à m'en envoyer sur mon adresse mail pro. Je la redonne hein, si vous voulez m'envoyer d'autres questions. C'est stagiaire au singulier point 2, hein, pas le chiffre, point nagui at radiofrance.fr. Alors, on commence par Léa qui nous dit, salut ma belle. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que j'ai fait 9 ans de conservatoire en art dramatique, donc je vais me permettre d'interpréter un petit peu les questions, histoire de mettre l'intention dans les propos des gens. Allez. Salut ma belle, comment obtiens-tu un résultat aussi naturel sur tes boucles? Waouh. Alors, déjà, incroyable que tu aies remarqué ça alors que c'est de la radio. Et trop sympa, d'autant plus quand on sait que cette question vient d'une vraie personne, que je n'ai inventé aucune question pour parler de ma nouvelle coupe que personne n'a remarqué. En tout cas, concernant ta question et comment je fais pour avoir de beaux cheveux, la réponse elle est simple, Maléa, j'ai payé une blindasse. Voilà. Alors voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi que les gens le remarquent. Et voilà aussi, tonton, la vraie raison de pourquoi le Père Noël n'est pas passé cette année. Question suivante, on a Courtney qui nous dit, à côté de la radio, un peu ça tue d'autres passions dans le vie. Alors oui, effectivement, j'adore la magie. Ainsi que le mentalisme. La magie directement. Oh, Benjamin, qu'est-ce que vous avez derrière l'oreille? Un beau sourire, ainsi qu'une belle ganache. Le mentalisme, désormais. Alors, Julie, je vais te demander de repenser à la dernière personne avec qui tu as eu un rapport sexuel. Ne me dis pas. Surtout, oh là là, tu as levé le nez, donc ça commence par une consonne. Ok, je vois que tu souris, ça confirme, magnifique. Ok, j'ai le sentiment que c'est un prénom court. Alors, regarde-moi dans les yeux, pense à la première lettre. B, c'est pas B, c'est C, c'est pas C, c'est D, c'est D, c'est D. Ok, tu souris. Tu souris d'air, je sens que c'est un A, A, O, da, da, ok. Dis tout le prénom. Dans ta tête. Da, une nasale. C'est Dan, Dan. Oh là-haut, tu dis qu'au tiens, elle a couché avec Danny Briand ou quoi? Question suivante. On a Léo qui nous dit. Bonjour Emma. Bonjour Léo. Toujours envie de baiser. J'adore votre chronique. Vraiment génial. Mais ne pensez-vous pas que l'humour, c'est l'art de transformer la douleur en légèreté, de trouver une lumière, même dans les ombres les plus denses, qu'il est un bouclier contre l'absurdité de l'existence, mais aussi un miroir et qui nous renvoie nos propres failles avec tendresse et ironie, et que finalement, rire, c'est résister. C'est une manière de dire au monde, monde, brise-moi, monde, brise-moi, mais tu ne m'empêcheras pas de danser sur tes débris. Oui, grave dac. Question suivante. On a Karine qui nous demande, propale, comment faites-vous pour improviser avec tant de talent? Alors, c'est dingue, cette capacité à rebondir avec tant et alors avec parfois si peu dans les mains. Effectivement, déjà, je dirais que l'impro, ça se travaille. Ça se travaille, c'est un exercice et même, c'est un art. L'impro, c'est noble. Donc, respectez un petit peu, hein, qui autour de cette table ici pourrait rentrer dans mon impro? Toc, toc, toc. Bonjour, Daniel Morin. Ah, tu fais du refus de jeu, Daniel. Je voudrais une baguette pas trop cuite. Je suis à cheval. On sait pas. Daniel, tu fais du refus de jeu. T'es pas mon père. Daniel, t'es pas mon hostie de père. Même si tu vas dormir à la maison quand papa va à l'hôpital pour sa chimio. Oula. Oh là là, deuxième révélation un petit peu gênante sur ma famille dysfonctionnelle. J'ai atteint mon quota, je vais devoir rendre l'antenne, ça fait du bien.
C'était Emma Beaujean et si vous voulez plus de révélations sur sa famille dysfonctionnelle, on la retrouve chaque semaine dans la bande originale. Karim, dans ton nouveau spectacle Entropie, tu parles du désordre du monde. Je me suis dit qu'il fallait qu'on se fasse un petit point là-dessus. C'est la mini-revue de presse. Cette semaine, Mark Zuckerberg a annoncé la fin du fact-checking sur Facebook et Instagram. On pourra donc raconter n'importe quoi sans que la plateforme n'intervienne pour rétablir la vérité ou du moins les faits vérifiés. Quelle fausse information vas-tu commencer à diffuser à ton sujet, Karim Duval ?
J'aimerais bien trouver une fausse information à diffuser à mon sujet, mais qui clive. Je ne suis pas un humoriste qui s'est clivé. Je n'ai pas de haters, moi.
Oui, c'est vrai.
J'aimerais bien être haï, quoi.
Ah ouais?
Parce que si, qui bah là, dit être haï, c'est l'occasion dit être de dire très aimé, quoi.
Horrible.
Moi, tu vois, peut-être que je colporte, sans le savoir, des idées fausses sur ce que c'est que l'entropie. Au fond, est-ce que ça change vraiment les choses? Est-ce que déjà, l'existence même d'algorithmes sur ces plateformes n'est pas déjà une manière de déformer la vérité, ou en tout cas la réalité, qui fait que chacun se fait sa vérité dans son coin, dans son silo, et... Ouais.
Emmanuel Macron a créé une crise diplomatique en disant qu'il regrettait que les dirigeants africains aient oublié de dire merci à la France pour son intervention antiterroriste au Sahel, mais qu'il avait l'habitude, lui, de l'ingratitude. Peut-être que tu peux faire un pas vers lui, Karim, pour lui exprimer ta gratitude. C'est ton moment. Pourquoi souhaites-tu remercier Emmanuel Macron ?
Moi, j'ai envie de lui, au nom de tous les humoristes, j'ai envie de dire Monsieur le Président, vraiment merci d'avoir participé à accroître encore plus le désordre. Il montre la voie, il met la barre très très haut et après, nous, on fait ce qu'on peut à juste le paraphraser en fait. Il nous montre où ça gratte quoi.
Les incendies de Los Angeles ont totalement ravagé la maison de Laetitia Hallyday. Alors c'est terrible, mais quand ton mari a chanté qu'il voulait allumer le feu pendant tant d'années, ça invite quand même à relativiser l'info. Quel titre de chanson de Johnny te correspond particulièrement et surtout pourquoi ?
Retiens la nuit, tiens, parce que j'aime dormir. J'ai besoin de dormir beaucoup, donc je retiens la nuit autant que je peux le matin.
Et bien justement, en parlant de nuit, le nouveau titre de Franz Ferdinand s'appelle Nuit ou jour. On l'écoute
et je savais
tout
pas,
de suite
je
sur
France.
Ouais, ça me fait une transition magnifique.
De la transition. Ouais.
Absolument, on l'écoute sur France Inter. Look forward to every day, oh my. Some days I just hate to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Sur France Inter, Karim Duval a dansé.
Ouais, j'ai bougé l'épaule.
Marine Baousson, l'humour d'Inter, l'hebdo.
Hier, dans Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et son équipe ont décortiqué la tendance du snow farming, qui est une technique utilisée par les stations de ski pour garder et stocker de la neige d'une année sur l'autre. Harold Barbet a saisi l'occasion de dire ce qu'il pensait des sports de neige en général.
Je dois bien vous l'avouer d'entrée, je m'en fous du snow farming. Voilà. À partir du moment où on a commencé à mettre du sable dans Paris pour faire une fausse plage, j'ai compris que l'humanité était perdue et qu'on allait droit dans le mur. De la neige en août, du sable à Paname, bientôt un Dorsal Store sur la Lune, tout va bien, tout va bien. Alors comme on l'a expliqué, le snow farming, c'est collecter et conserver de la neige pour s'en servir plus tard. Se rouler dedans, se la lancer au visage, c'est le même principe qu'une banque du sperme. Sans le côté se rouler dedans et se la lancer au visage. Quoique après tout, faites bien ce que vous voulez. Alors c'est dur pour moi de trouver un point positif au snow farming, tout simplement car je déteste le ski. Je hais tellement le ski et la montagne que c'est un miracle que j'aime encore la raclette. Tout me fait horreur là-bas. Je ne sais pas ce que je hais le plus dans la vie. Avoir une conversation avec quelqu'un qui me parle trop près du visage ou pénétrer l'austérité d'une boutique de location de matériel de ski. Tu rentres là-dedans, ça pue la vieille chaussette et le rêve brisé. Un mec de 40 ans passé t'accueille avec des dreadlocks dégueulasses. On dirait qu'il a un lustre posé sur la tête, un lustre de bite. Tout le fait chier, tout le fait chier. Le mec est désagréable comme jamais, il se la pète. Mais comment tu peux te la péter quand tu portes une veste polaire quechua pastel et que t'as une dent qui court après le beefsteak? C'est le royaume des prétentieux, le ski. Quand je vois un gars faire un dérapage, j'attends qu'une seule chose, c'est d'entendre le crack de la fracture de sa malléole externe. Je les déteste, putain! Il y a un côté acharnement thérapeutique à conserver la neige. Mais laissez-la fondre, cette neige. Elle a rien demandé. Elle a vécu sa vie. Déjà qu'elle a dû supporter tout un tas de connards en doudou de North Face qui ont écrit leur prénom à rallonge en lui pissant dessus. Jean... Ah mince, j'ai pas bu assez d'eau, j'arrive pas à finir. Heureusement que j'ai la colique depuis ce matin. En 2025, le fromage fond plus vite que la neige dans les montagnes. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Conserver de la neige un an, c'est comme coucher avec sa sœur. C'est contre nature, mais dans les montagnes, ça passe. Pensez à Mère Nature. Mère Nature, c'est la maman un peu laxiste qui contrôle pas trop ses enfants. Elle est là, arrêtez, arrêtez, c'est pas bien ce que vous faites. Et nous, on s'en fout, on continue. Mais quand elle va s'énerver, on va tellement payer, on va tous tellement payer. Faudra pas venir se plaindre quand les enfants naîtront avec des trous de balles à la place des narines. Laissez la neige mourir, bon sang! J'ai bossé 2 ans en pompe funèbre. Laissez-moi faire, j'ai écrit une lettre d'excuse de notre part à tous, à la neige, en espérant que Mère Nature en tienne compte. Chère neige, le visage blanc et refroidi depuis longtemps, tu as tout du cadavre idéal. Tous ces gens richissimes pétés de thunes qui vont te marcher dessus et t'ignorer comme si tu ne représentais rien, bienvenue dans la vie d'un Français de la classe moyenne. Aujourd'hui, on te déterre une fois par an, un peu comme une vieille tante que l'on invite qu'au réveillon de Noël. Alors que ton seul souhait, c'est de mourir et de ne surtout plus jamais, jamais croiser notre route. On ne peut pas dire que tu nous manqueras, car on t'utilisera encore et encore et encore chaque année, jusqu'à ce que tu deviennes inutilisable. On te ressortira du frigo, comme Jean-Pierre Foucault pour la soirée Miss France. Rest in peace, la neige, qu'on pourrait traduire par « repose dans ton pipi ». Enfin, celui des skieurs, en l'occurrence. Toutes nos excuses, la neige. Bisous, Harold.
Harold Barbet, vous ne le retrouverez donc pas sur les pistes, mais dans Zoom Zoom Zen les vendredis où il alterne entre autres avec, aux surprises, mon invité, l'humoriste Karim Duval. Karim, une grosse partie de ton spectacle Entropie est consacrée aux intelligences artificielles. Tu as d'ailleurs toi-même travaillé quelques années dans la tech. Ça nous a donné envie de te proposer un petit jeu. Je vais te dire des actualités qui se sont passées.
Je suis bien sûr expert sur le sujet.
Bien sûr, évidemment. Tout le monde le sait. À toi de voir si ces news sont vraies et témoignent du raz-de-marée provoqué par l'arrivée des IA dans nos petites existences. Ou si elles ont tout simplement été inventées grâce à la matière grise dont mes parents m'ont doté. Évidemment, je parle de mon intelligence hors du commun. On joue à intelligence artificielle ou intelligence humaine, IA ou aïe aïe aïe. Allez, jingle!
Donc, les hémisphères droit et gauche, rattachés entre eux par le corps calleux, sont le siège de la conscience et de l'intelligence.
Bonjour, utilisateur.
Je parle des prototypes 686 avec la puce à intelligence artificielle infaillible.
Une nouvelle forme d'intelligence.
Tous les criminels d'envergure possèdent un cerveau supérieur.
Notre salut dépend de notre intelligence.
Tu as ri à ce titre. Je ne te cache pas que toute l'équipe était très mitigée.
Non.
Et ça me fait plaisir.
Par solidarité, je valide et je sens que je vais répondre souvent aïe 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 à tes questions.
Bah là, c'est plutôt des vrais ou faux. Mais première proposition, panique chez OpenIA. Une intelligence artificielle vient de s'auto-pirater pour gagner une partie d'échecs. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
C'est absolument vrai. Un article sur le site Cori raconte comment une intelligence artificielle a effectivement battu un puissant programme d'échecs en utilisant tout bonnement le piratage comme stratégie. Une mauvaise foi qui me rend personnellement l'IA beaucoup plus sympathique.
C'est vrai, mais l'article a été rédigé par une IA.
Probablement. Évidemment. Deuxième proposition. Le fondateur d'OpenAI a déclaré « Préparez-vous à pédaler sec car nous utiliserons bientôt l'énergie humaine pour alimenter les générateurs de nos centrales d'intelligence artificielle. »
C'est évidemment faux.
Exactement.
Bah oui, non mais un mec de la tech n'aura jamais ce genre de propos.
Il dira jamais pédaler sec.
Il dira jamais pédaler sec. Jamais il ira chercher la solution dans ce genre de
Effectivement, c'est faux.
Secteur.
C'est faux. C'est Sam Altman. Il a néanmoins bien fait état de l'arrivée sur le marché du travail d'opérateurs d'intelligence artificielle qui, selon lui, seront généralement plus intelligents que les humains. Voilà. Merci Sam. Ça fait quand même plaisir.
Ça va dans le sens de son discours.
Alors vrai ou faux, un Américain qui se rendait à l'aéroport dans un taxi autonome sans son chauffeur, s'est retrouvé coincé dans la voiture qui s'est mise à tourner en rond sur un parking sans pouvoir sortir à cause des portières verrouillées.
J'ai envie de dire, c'est vrai, Yaï. Tu vois, je peux ça.
Ouais, ça veut dire
que c'est vrai, mais c'est peut-être une IA qui l'a dit.
Eh ben, c'est complètement vrai. Le Parisien a publié sur ses réseaux cette vidéo de Mike Jones, un pauvre homme qui a failli rater son avion à cause d'un taxi fou. Ils ont dû réinitialiser la voiture à distance pour le faire sortir après de longues minutes où le mec tournait sur un parking, quoi. Quatrième proposition. Il y a eu une explosion de Tesla le 1er janvier à Las Vegas. Le suspect a utilisé l'intelligence artificielle de ChatGPT pour planifier l'attaque. Vrai ou faux?
Je dirais que c'est faux.
Eh bah, bien, c'était vrai.
Ça, ouais.
Oui, on voit ça dans
c'est
Libération.
Même ça, il n'est pas capable de le faire.
Non. Et c'était le conducteur qui a été retrouvé mort dans l'explosion de son Cybertruck Tesla au pied de l'hôtel Trump à Las Vegas. Et effectivement, il a utilisé une IA générative pour rechercher des explosifs et des mécanismes d'allumage pour sa voiture.
J'imagine les terroristes un peu vieille école, tu sais. Mais tout se perd. C'est plus ce que c'était.
À l'époque, on avait du savoir-faire.
Il n'y a plus de terroristes.
Bon, en tout cas, toi, ça te fait 3 points pour l'instant sur 4. Et dernière question. Une IA développée par Facebook a été désactivée après avoir créé son propre langage de programmation pour communiquer avec d'autres intelligences artificielles. Vrai ou faux?
J'ai la moyenne, donc je peux dire ouais, vrai.
Eh ben oui, c'est vrai. Bravo, ouais, Karim.
Pas mal.
Tu gagnes. 4 tu
sur
gagnes.
5. 4 je
sur
gagne. 5, je gagne rien.
Mais extrême. Tu gagnes toute mon admiration.
Eh ben c'est beaucoup.
Et c'est énorme.
Merci. Je repartirai énorme. Avec. J'ai de la place dans mon sac.
Tu la mets dans ton petit cœur et c'est parfait. Mais pour l'instant, Karim, on se ferait pas un petit bilan de ma semaine?
Allez, c'est parti.
Ah là là, mes amis, quel début d'année en feu d'artifice, ça pète dans tous les sens. Procès de Stéphane Plaza, oh la belle bleue. Feu à Los Angeles avec des baraques de tous les riches qui crament, oh la belle rouge. Donald Trump qui veut annexer le Groenland, oh la belle blanche. Décès de Jean-Marie Le Pen, oh la belle bleue, blanc, rouge. Justin Trudeau qui démissionne, oh la belle rouge avec une feuille d'érable blanche. Macron qui démissionne pas, mec, qui insulte les dirigeants africains, oh là, je vais m'arrêter avec les couleurs. 2025, tu nous gâtes, mais j'avoue. Vous, le procès de Nicolas Sarkozy, là, je crois que c'est mon actu préféré du mois de janvier. Et pourtant, je vous rappelle que le Michael Jordan des racistes, le Roger Federer des xénophobes et le Taylor Swift des islamophobes et des antisémites nous a quittés, c'est dire. Voilà, donc je résume. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir fait financer sa campagne présidentielle de 2007 par Muammar Kadhafi, feu le dictateur libyen, avec l'aide donc de Claude Guéant, Éric Woerth et Brice Hortefeux, autant dire que des numéros 10 dans sa team. C'est les Avengers en cravate avec des densités capillaires approximatives. C'est l'émission best-of de Koh-Lanta avec que des aventuriers de la tribu des Droitos. C'est les enfoirés, sauf que là, c'est eux qui te font chanter et à la fin, les sous, ils les laissent à personne. Et je dis pas, c'est vrai qu'on fait tous et toutes des trucs illégaux parce que ça nous arrange dans notre quotidien. Se garer vite fait en warning sur le truc des bus pour déposer un colis Vinted avant la fermeture du Carrefour City, je l'ai fait. Piquer le verre de ta collègue à la cantine parce que t'as oublié d'en prendre un et qu'elle regarde ailleurs, je l'ai fait. Soulever légèrement le capot de toutes les parts de galettes avant d'en choisir une tout à fait au hasard, votre reine l'a fait.
C'est subversif.
Absolument. Bon, voilà. Mais là, c'est les super-héros de la corruption. Ils auraient reçu des valises de cash contre des faveurs pour donner une bonne image au gouvernement libyen, pour la libération de terroristes, etc. Voilà. Disons que c'est une autre échelle que d'avoir 7 fois la fève à la galette d'Inter. Parce qu'il y avait 7 galettes en fait, c'était une par million d'auditeurs. Mais grâce à vous, chers auditeurs, j'ai eu le droit à un croc, c'est proportionnel aux audiences. Bon, mais il y a tellement de trucs louches dans cette affaire de financement. Mediapart, ils enquêtent depuis 10 ans, c'est long 10 ans pour une enquête. Même Élise Lucet, elle doit plus en pouvoir, parce qu'elle va voir Sarkozy à chaque enquête en plus. Hein. Bonjour Nicolas Sarkozy, Élise Lucet, Cache Investigation. Je sais, on s'est vu hier, j'ai rien à déclarer sur les écoutes, tout est faux. Non, on sait pas. Oui, bah j'ai rien à dire sur Big Malion, c'est un complot. Alors non, non plus sur Bettencourt, c'est entièrement biton. Non, non plus. Je m'en fous, je parlerai pas de Karachi, c'est que des mensonges. Nope. Bah on est sur quoi aujourd'hui alors? Eh ben on est sur le financement de la campagne de 2007. Eh ben j'ai rien à dire, c'est monté de toutes pièces. À demain, la bise à ton mari. Alors moi je suis très admiratif des journalistes d'investigation, comme des imitateurs d'ailleurs visiblement, parce que là j'ai tout donné, mais là, non, les journalistes d'investigation c'est un truc. Alors les journalistes en général, c'est vrai que je suis très admirative, mais je veux pas froisser tous les journalistes mode et culture qui nous écoutent, mais j'avoue que de faire de l'investigation c'est quand même un poil plus dangereux que de faire des articles sur les 5 meilleurs shampoings secs de 2024.
C'est bien aussi, hein. Je dis juste que c'est pas la même adrénaline, quoi. Dire, si Tintin, il avait pas mené l'enquête sur des gros dos, ça nous aurait peut-être un peu moins intéressé. Dire, Tintin au Tibet, Tintin en Amérique, Tintin au pays des soviets, en fait, Tintin, il était à deux doigts d'être juste un youtubeur voyage, en fait. Hein. Moi, je serais nul en journaliste d'investigation. Voilà. Si c'est moi qui avais mené l'enquête sur l'affaire Kadhafi, Sarkozy, il en serait pas là. Hein. Moi, je serais encore en train de me demander, il a été où, Kadhafi, pour avoir tout ce cash en euros depuis la Libye? Et puis, c'est quoi le plafond de retrait à Tripoli? C'est louche, quand même. Ou alors, c'est sa mamie, elle lui a donné un très gros dimanche. Allez, je note. Appelez la Société Générale Tripoli pour le plafond, et puis appelez la mamie à Muammar. Voilà, c'est bien, Marine. L'enquête avance. Bon, heureusement, c'est pas moi qui étais en charge de l'affaire, et on aura un verdict mieux renseigné le 10 avril. On croise les doigts et les chevilles pour un nouveau bijou. C'était votre émission préférée, l'humour d'Inter, l'hebdo. Et ça, je peux le dire que c'est votre émission préférée parce que les audiences sont tombées et vous nous écoutez de plus en plus nombreux. Donc merci, merci beaucoup. J'espère que cette émission vous donne envie de vous abonner au fil de podcast L'humour d'Inter sur l'application Radio France. Merci aussi à Karim Duval. On le retrouve dans Zoom Zoom Zen, mais surtout sur scène dans son spectacle Entropie. C'est le jeudi à 19h au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris, de janvier à avril. Donc de maintenant à avril, sur tout le temps du procès de Nicolas Sarkozy. Tu es aussi en tournée, t'as des dates à Toulouse le 26 février, à Saint-Étienne le 5 mars, c'est mon anniv, et puis à Lyon le 25 juin. C'était l'humour d'Inter, l'hebdo, une émission préparée par la désordonnée Louise Tempéro, documentée par l'incertaine Delphine Desbiens et l'Antanina, la bordélique Lucie Lemarchand était à la réalisation, le chaotique Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale, et c'était bien sûr l'anthropique Adèle Caglar à la technique.